nous continuons dans notre étude et nous allons lire toujours dans Éphésiens, dans Philippiens chapitre 1, verset 1-21. Nous allons lire avec, au verset 21. Malheureusement, nous n'allons même pas arriver à partager jusqu'au verset 21. Je lis. Il dit, « Je veux que vous sachiez, frères, ce qui m'est arrivé, verset 12 à 21. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec des pensées de me susciter quelque affliction dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais seulement, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Amen. Voilà, nous nous arrêtons là. Et dans cette lecture, sinon même jusqu'à la fin, nous pouvons donner comme titre à ce texte, voyez, les encouragements de Paul dans ses souffrances. Nous voyons ici comment Paul est encouragé par son témoignage ici, combien il était encouragé dans ses souffrances. Vous voyez, mes amis, la Bible est claire. Et c'est dans Philippiens même qu'elle le déclare au verset 29, que Dieu nous a donné la grâce non seulement de croire, mais aussi de souffrir pour Christ. Lisons, il dit, et cela vient de Dieu, d'abord revenons au verset 27, il dit seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire que vous demeurez dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui pour eux est une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Voyez, mes amis, Dieu nous a donné la grâce de croire en Christ, de nous réjouir dans le salut et dans l'héritage éternel qui nous est réservé là-haut, mais nous y arriverons, nous y entrerons à travers les souffrances pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas y échapper. Si nous sommes à Christ, d'une manière ou d'une autre, nous serons persécutés. Il y a des persécutions directes et violentes, et il y a des persécutions qui sont indirectes et qui sont très subtiles. Oui. Les paroles, les regards, les critiques, toutes ces choses. Oui. Mais autant, n'est-ce pas, le Seigneur nous a sauvés pour sa gloire, autant, n'est-ce pas, nos épreuves et nos souffrances pour son nom participent à sa gloire. Voyez, nous ne souffrons pas pour rien, nous souffrons pour la gloire de Christ. Nous ne souffrons pas comme des voleurs ou comme des adultères, mais nous souffrons comme des hommes justes pour la gloire de Christ. Et cela vient de lui. Nous l'avons lu. Cela vient de lui. Malheureusement, aujourd'hui, lorsque vous écoutez ces prédicateurs, ces prophètes qui sont là dehors, ils vous disent non, la volonté de Dieu n'a jamais été que son fils souffre. Et il mélange toutes les souffrances. Il mélange toutes les souffrances. Vous voyez, les souffrances causées par le péché et même les souffrances au nom de Christ. Ils vous disent non, la volonté de Dieu n'a jamais été que ses enfants souffrent. Et là, c'est un mensonge du diable. Qui que vous soyez en Christ, où que vous soyez, vous souffrirez pour la gloire de Christ. Et ce qui est une grande source de soutien, d'encouragement et de consolation pour les élus. Et Paul était vraiment encouragé. Il était vraiment soutenu, il était vraiment consolé dans ses souffrances. Et quelles que soient les atrocités, les souffrances des enfants de Dieu, sachant qu'elles participent à sa gloire, ils trouvent le soutien dont ils ont besoin, la consolation et l'encouragement. Et c'est ce que nous voyons ici dans notre texte. Donc nous voyons premièrement que les épreuves, au lieu de briser et de couvrir de mépris celui qui avait sauvé Paul, ont plutôt contribué au progrès de l'évangile. Vous voyez, les souffrances de Paul devaient en réalité le briser et même couvrir de mépris le Seigneur Jésus-Christ dont il servait. Mais au lieu de cela, nous voyons que ses souffrances, sa prison ont contribué au progrès de l'évangile. C'est ce que nous lisons dans le verset 12 et 13. Il dit, je veux que vous sachiez, frère, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Il était en prison à Rome, mais son témoignage, c'est que cette prison à Rome a contribué à propager, à la propagation de l'évangile et au salut des élus. Et que dans tout le prétoire, c'est-à-dire le palais de justice, tous ceux qui travaillaient dans le palais de justice savaient que Paul n'était pas en prison comme un voleur, il n'était pas en prison comme un meurtrier, mais il était en prison pour l'évangile. Et toutes les discussions concernant Paul tournaient autour de Christ et de l'évangile. Toutes les discussions concernant Paul, comme je disais, tournaient autour de l'évangile, autour de Christ. Autour de Christ. Oui. C'est ça que Paul est en train de témoigner ici. Et voyez, nous voyons une chose. La persécution au nom de Christ a toujours été un instrument efficace que Christ utilise pour propager l'évangile et pour sauver ses élus. Qu'est-ce qui a fait que les apôtres puissent se disperser vers les nations pour aller prêcher l'évangile? C'est la persécution à Jérusalem. Ils étaient persécutés par les Juifs, par le Sanhédrin. Unis au Sanhédrin, le gouvernement romain. Et c'est ce qui a fait que les apôtres éclatent. Tous, ils allaient de pays en pays et annonçant l'évangile. Annonçant l'évangile. Vous voyez, la persécution a toujours été et sera toujours un instrument efficace que Christ lui-même utilise pour la propagation de son évangile et le salut de son peuple. Et mes amis, quel encouragement de savoir que dans notre inconfort et dans nos souffrances, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Christ utilise notre réconfort, notre inconfort et nos souffrances pour le réconfort et le salut de nos frères qui ne le connaissent pas encore. C'est en cela que Paul tirait son encouragement. Il voyait comment, oui, il était en prison, mais l'évangile n'était pas en prison. Il était dans les chaînes, l'évangile n'était pas dans les chaînes. L'évangile était prêché et les âmes se convertissaient à Christ. Et cela lui donnait beaucoup d'encouragement. Beaucoup d'encouragement. Et même, non seulement cela lui donnait beaucoup d'encouragement, mais allégeait en réalité ses souffrances. Et c'est pourquoi il dit au verset 21 que sa vie ne lui est pas un gain. N'est-ce pas? La mort lui est un gain parce que Christ est sa vie. Parce que Christ est sa vie. Oui. Les souffrances même de la prison et tout ce qu'il pouvait s'abattre sur lui devenait de plus en plus léger. Voyez, chers amis, quel encouragement, n'est-ce pas? Et quelle consolation de savoir que nos souffrances pour le nom de Christ sont un instrument de bénédiction pour les autres. Pour les autres. Vous voyez, c'est ce que Paul est en train de nous montrer ici. Tôt ou tard, vous passerez par des persécutions, vous passerez par des souffrances au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais comme l'apôtre Jacques dit, trouvez cela comme une source de joie parfaite. 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 Vous voyez, l'apôtre Jean dit, Jacques, dans son chapitre 1, versets 2 à 4, il dit, Jacques chapitre 1, versets 2 à 4, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, une joie complète. Et seule la grâce de Dieu peut vraiment nous amener à cette joie complète. Lorsqu'elle est puissamment en œuvre dans nos cœurs, hein, nous démontrant que les souffrances et les épreuves dans lesquelles nous sommes plongés sont pour la gloire de Christ. Nous enseignant que ces épreuves sont pour le bien de son Église et pour notre propre bien. Ce n'est qu'en ce moment que nous pouvons, n'est-ce pas, voir cette joie complète dans les épreuves. Parce que vous constaterez comme moi, et vous observerez comme moi, que ce que même les chrétiens ne veulent pas, c'est souffrir. Ils veulent tout sauf souffrir. C'est pour ça qu'on est derrière les prophètes. C'est pour ça qu'on est derrière tous ces sorciers, n'est-ce pas, qui disent comment ils peuvent apporter la délivrance, comment ils peuvent apporter le bien-être, comment ils peuvent apporter le bonheur, sans même comprendre que tout d'abord vient de Dieu, que ce soit nos maux, que ce soit nos biens, tout vient de Dieu. Et comme l'apôtre Jacques dit ici, nos maux que Dieu nous envoie ont un but, lisons-le. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposé, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Voyez, les épreuves sous lesquelles le Seigneur nous soumet nous rendent patients, nous rendent persévérants, nous rendent endurants lorsque nous les recevons à la gloire de Christ et pour la gloire de Christ. Ils ont une œuvre à accomplir et cette œuvre, c'est de nous rendre endurants, persévérants. Oui. Et il dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Il faut que la patience accomplisse l'œuvre pour laquelle Dieu a... Ça veut dire que dans la patience, dans notre patience, il faut que Christ accomplisse l'œuvre pour laquelle il a envoyé cette épreuve. Afin que nous soyons rendus parfaits, irréprochables, accomplis, sans faillir en rien. En rien. Voyez, chers amis, c'est très important pour nous de savoir que nous devons passer d'un instant à l'autre aux épreuves. Et que cela vient de Dieu. Et que cela est pour notre bien, pour le bien de l'Église et pour la gloire de Christ. Et cela ne concerne pas seulement, n'est-ce pas, l'apôtre Paul et l'Église. Mais c'est tout d'abord notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il a été le premier à souffrir pour nos péchés, afin de payer, afin qu'il paye, n'est-ce pas, la dette de nos péchés par son sang, et qu'il donne satisfaction à la justice de Dieu, en notre faveur. Et à travers ses souffrances, il a été encouragé, comme l'apôtre Paul est encouragé ici, de voir l'œuvre de Christ se propager, l'œuvre de Christ continuer et les âmes converties. Lisons-le dans Ésaïe. Ésaïe 53. Vous voyez, de la même manière dont l'apôtre Paul est encouragé ici en voyant l'avancement de la gloire de Christ et le salut de son peuple, de la même manière le Seigneur Jésus-Christ était encouragé dans ses souffrances qui ont glorifié et satisfait son Père et qui ont sauvé parfaitement son peuple par son sang qu'il a coulé sur la croix et qui a accompli la volonté de Dieu. Dans Ésaïe 53, nous lisons au verset 10 et 11. Il est écrit verset 10 et 11. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Voyez, après avoir livré sa vie en sacrifice pour notre péché, il a sauvé son peuple élu et lui donne la vie éternelle. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Voyez, non seulement Christ a sauvé certainement tous ceux que Dieu lui a donnés par sa mort, mais il les garde par sa puissance, de manière que tous ceux qu'il a rachetés entreront dans la gloire de Dieu. Aucun ne manquera. Et non pas seulement cela, mais l'œuvre, l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains, en sorte que l'Évangile sera propagé dans tout le monde entier, et les élus de Dieu seront tous sauvés, viendront tous à la foi en Jésus-Christ. Et le verset 11 dit, à cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Oui, Christ a souffert, non seulement en sa chair, mais aussi en son âme. Rappelez-vous, lorsqu'il était dans le jardin, où il disait que son âme est triste, qu'il est triste dans son âme. Lorsqu'il est parti prier avec Pierre, Jacques et Jean. Il dit que son âme est triste jusqu'à la mort. Si nous pouvons le voir, si nous pouvons le lire rapidement dans Matthieu, je pense que c'est dans Matthieu 26. Voilà. Il est écrit à partir du verset 63. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané et il dit aux disciples, asseyez-vous. Pendant que je m'éloignerai pour prier, il prie avec lui pour aller prier. Il a fait asseoir le reste, quelque part. Et puis il est parti prier avec Pierre et les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean. 26, à partir du verset 36. Matthieu 26, à partir du verset 36. J'ai dit 63? Ah, excusez-moi. J'ai renversé 63, j'ai renversé 36 à 63, en 63. Excusez-moi, s'il vous plaît. Allez. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, verset 38, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, il fit quelques pas en avant et il se jeta face sur sa face et pria ainsi, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Amen. Il était venu pour accomplir la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu était qu'il porte sur lui le péché du peuple de Dieu, qu'il meure pour le péché du peuple de Dieu, pour satisfaire, pour payer le prix de ce péché, la dette de ce péché, et satisfaire à la justice de Dieu. Voyez, chers amis, et c'est ainsi qu'il dit ici dans Ésaïe 53 où nous sommes, il dit « À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards, et par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. » Amen. Voilà. Ce n'est pas seulement le Seigneur Jésus-Christ que la persécution, la haine du monde et les souffrances pour la gloire de Dieu concernent. Ce n'est pas l'Église, ce n'est pas Paul seul, mais le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous montre même, n'est-ce pas, le modèle. Le modèle à suivre. Et nous voyons ici en réalité que les yeux de Paul, nous le verrons plus tard, les yeux de Paul étaient fixés sur le Seigneur Jésus-Christ et les souffrances dont il a souffert pour lui et pour son Église. Et aussi de la consolation que le Seigneur a reçue, de l'encouragement que le Seigneur a reçu en voyant son peuple sauvé et prospéré entre ses mains. Voyez, dans sa prison, l'apôtre Paul était encouragé de voir le Seigneur se servir de lui pour propager l'Évangile et pour sauver son peuple. Voyez, mes amis, il n'y a pas une situation dans laquelle le Seigneur puisse nous placer, dans laquelle nous ne puissions annoncer l'Évangile. Et c'est ce que nous voyons encore ici. Nous avons dit que nous pouvons être dans les chaînes, mais l'Évangile n'est pas dans les chaînes. Il n'y a pas une situation dans laquelle le Seigneur puisse nous placer sans que nous puissions annoncer et qui ne soit pas favorable à annoncer l'Évangile. Voici la preuve, l'exemple. Notre maman, sur son lit de maladie la fois dernière, a reçu du Seigneur la force, le courage, le zèle pour annoncer l'Évangile. Et le résultat, voici la petite Sidoine. Voici la petite Sidoine qui est assise pour écouter l'Évangile. Il n'y a pas une seule situation dans laquelle le Seigneur puisse nous placer et qui ne soit pas favorable à la prédication, à la proclamation, au témoignage de Christ et de Christ crucifié. Et une deuxième chose que nous voyons ici dans notre texte, c'est que l'apôtre Paul se réjouissait de voir le Seigneur utiliser ses souffrances et son exemple pour encourager les frères à annoncer la parole de Dieu sans crainte. C'est ce que nous lisons du verset 14 au verset 18. Revenons dans Philippiens. Chapitre 1. Revenons dans Philippiens chapitre 1. Voyez, le Seigneur a utilisé ses souffrances pour encourager les frères à annoncer l'Évangile. Et non pas ses souffrances, mais aussi, voyez, son exemple, voyez, son humilité dans ses souffrances et sa fidélité à Christ. Tout ça, toutes ces choses touchaient le cœur des frères pour qu'ils pour qu'ils se mettent à annoncer l'évangile. Lisons-le dans verset 14 à 18. Il est écrit: et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans les intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelque affliction. Dans mes liens, qu'importe de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Malheureusement, nous voyons quelque chose de fâcheux ici. Vous voyez, il y a deux groupes qui se mettent à annoncer l'Évangile. Il y en a qui veulent annoncer l'Évangile, mais sur la base de motifs impurs, et d'autres sur la base, n'est-ce pas, de l'amour pour Christ et de l'amour pour son serviteur Paul. Vous voyez, mes amis, qu'est-ce que nous voyons? Le Seigneur utilise toujours l'humilité de ses serviteurs, leur fidélité en lui, et dans leurs épreuves pour encourager les autres. Et c'est ce que Hébreux 12 nous enseigne. Voyez, le Seigneur utilise toujours le modèle des autres pour nous enseigner. Dans Hébreux chapitre 12, ici l'apôtre Paul parle des épreuves dans lesquelles les croyants étaient exposés et particulièrement il était exposé à la persécution, parce que ici il écrit aux Hébreux, aux Juifs, et autant les uns et les autres étaient appelés par Christ et étaient convertis en Christ, pourtant, ils subissaient la persécution, la méchanceté et la haine de leurs frères qui étaient encore attachés au judaïsme. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul leur dit ici, à partir du verset 1, Hébreux 12, il dit: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Amen. Voilà. L'apôtre Paul avait les yeux fixés sur Christ. Il regardait à ce modèle, il regardait à son Seigneur, il regardait à son Dieu. Comment son Dieu a souffert pour le sauver et pour sauver son Église. Et nous sommes, nous aussi, appelés, mes amis, à fixer nos regards sur Christ. Lui qui donne la foi et qui l'amène à la perfection, afin que les yeux fixés sur ses souffrances, les yeux fixés sur sa persévérance, les yeux fixés sur son humilité, sur sa fidélité à glorifier son Père, que nous ne nous lassions point. Et c'est ça qu'il dit. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Quels sont ces témoins? Ce n'est pas des hommes qui nous regardent et qui nous épient pour voir ce que nous faisons. Non. Mais ces témoins, c'est les hommes de foi qu'il a cités dans le chapitre 11. Ces hommes de foi dont il cite dans le chapitre 11. Comment est-ce que ces hommes ont-ils marché dans la foi? Comment est-ce que ces hommes ont souffert dans la foi? Comment est-ce que ces hommes ont aimé Christ dans la foi, dans leurs épreuves? Hein? Comment est-ce que ces hommes ont marché dans leurs épreuves? Comment est-ce qu'ils ont souffert pour Christ dans leurs épreuves? Comment ils ont aimé Christ dans leurs épreuves? Comment ils sont restés fidèles à Christ dans leurs épreuves? Et c'est eux. Il nous dit, regardez en arrière. Regardez ces témoins de la foi. Parce que lorsqu'il parle de témoins, ce n'est pas des hommes qui vont témoigner pour nous. Hein? Soit témoigner en bien ou en mal pour nous. Mais les témoins de la foi en Jésus-Christ. Il dit, rejetons donc tout fardeau, hein, que cela, que nos épreuves ne soient pas un fardeau dont nous portons, hein, ce qui en réalité nous conduit à pécher facilement devant Dieu. Parce que lorsque nos épreuves deviennent un fardeau et que nous ne voyons pas dans nos épreuves la gloire de Christ et le salut de son Église et notre propre bien-être, notre propre bien spirituel et éternel, ces épreuves deviennent un fardeau et nous conduisent facilement à pécher. Il dit, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Oui, la foi que nous avons reçue ne vient pas de nous. C'est Jésus qui nous l'a donné. Et c'est Jésus encore, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui tient notre foi dans sa main, qui la fortifie, qui la nourrit, qui la préserve, qui la protège, jusqu'à ce que nous entrions dans sa gloire. Et c'est pourquoi nous sommes assurés que tout ce que Christ a sauvé, persévérons jusqu'à la fin. Je connais mes brebis, je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. Pourquoi ne périront-ils point? Parce que nul ne peut les ravir de ma main. C'est lui qui entretient notre foi jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et nos yeux doivent donc être portés sur lui et non pas sur nous-mêmes. Vous voyez, le plus souvent, nous pensons que quand la Bible dit « celui qui vaincra », c'est celui qui vaincra qui sera sauvé. Ou bien c'est celui qui vaincra qui recevra la couronne d'or. Nous pensons que cela dépend de nous-mêmes. Cela ne dépend pas de nous-mêmes, mais de Christ. Alors nos yeux doivent être fixés sur lui qui nous a donné la foi et qui entretient cette foi, nourrit cette foi, la soutient et la fortifie à toute épreuve. Et lui qui, en échange de la joie qui lui était réservée, quelle joie? La gloire de son Père. Il est venu pour accomplir la volonté de son Père. Il dit, je suis venu non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Il est venu donc pour glorifier son Père. Et c'est ce qui faisait sa joie. Et non seulement pour glorifier son Père, mais pour sauver son peuple, ses élus. Voici ce qui faisait sa joie dans ses souffrances. Et c'est pourquoi il dit, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Oui, il est mort sur la croix pour nos péchés. Il a été enseveli. Il est ressuscité et il est assis à la droite de la majesté divine où il règne. Et il intercède pour ses élus. Il dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Oui, considérez, fixez vos yeux sur le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui saint, sans péché et sans tâche, a souffert pour les coupables, a subi la haine des hommes, alors qu'il les aimait,
a subi la haine des hommes alors qu'il est venu les sauver. Et regardez à lui. Et ne vous lâchez point, ne vous découragez point, comme lui-même ne s'est point découragé. Amen. Voilà. Voilà. Et Dieu utilise donc toujours, n'est-ce pas, les souffrances de ses serviteurs pour encourager les autres. Malheureusement, ce que nous voyons ici, premièrement, nous voyons que certains frères annonçaient l'évangile avec de mauvaises intentions. Et c'est bien cité, par envie, par jalousie envers Paul. Par jalousie envers Paul, lui que Christ a établi comme ministre des païens. Vous voyez, ces hommes étaient en train de contester le ministère de Christ, comme de Paul, comme si ce n'était pas Dieu qui l'a établi. Et pour eux maintenant, où Paul était donc en prison, alors c'était pour eux l'occasion, n'est-ce pas, de prendre sa place et, n'est-ce pas, de, comme peut-être qu'ils pensaient que c'est une place qui donne les honneurs, hein, c'est une place qui donne les gloires, sans savoir que c'est une place qui appelle à la souffrance. Vous voyez, pour eux, donc, c'était l'occasion maintenant, puisque Paul était en prison, de prendre sa place. Mais malheureusement, mes amis, nous voyons véritablement cela avec beaucoup de peine. Vous voyez que c'est des choses qui ne devraient pas se passer dans l'Église de Christ. Mais tant que nous sommes encore attachés à cette chair pécheresse, nous pouvons tout faire de pire. Nous pouvons tout faire d'abominable. La seule chose qui nous préserve, c'est la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Nous serions pires que ceux qui sont là-dehors, même avec le Saint-Esprit dans nos cœurs. Et c'est ce que nous voyons ici. Voyez, cette tendance fâcheuse de la nature pécheresse, de vouloir toujours avoir sa gloire, sa part, sa gloire dans l'œuvre du Seigneur. Et rappelez-vous, dans Nombre chapitre 12, n'est-ce pas, Marie, la grande sœur de Moïse, et Aaron, ils se sont levés contre Moïse. Mais voici quelque chose qui était dans leur cœur depuis longtemps. Mais ils ont saisi l'occasion où Moïse a pris une femme éthiopienne, après avoir laissé sa femme chez son beau-père. Il a pris encore une autre femme éthiopienne. Et ils se saisissent alors de cette occasion, lisons le texte, ils se saisissent de cette occasion pour lui dire, mais attends, est-ce que c'est par toi seul que Dieu parle? Nombre chapitre 12. Je ne suis pas là-bas, je suis à Deutéronome, nous y serons bientôt. Voilà. Il est écrit... Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Amen. Ça, c'est l'image de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Vous pouvez lancer tout sur Jésus-Christ, il reste le même. Il reste le même, et c'est ainsi qu'était Moïse. L'homme le plus patient qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie, « Allez-vous trois dans la tente d'assignation. » Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de Dieu s'enflamma contre eux et il s'en alla. Hein, la nuée se retira de dessous la tente et Marie fut frappée de la lèpre. Hein, d'une lèpre blanche comme la neige. Vous savez pourquoi Aaron n'a pas été frappé? Parce qu'il était le souverain sacrificateur. Hein? Il devait entrer constamment dans le tabernacle. Mais Dieu a puni ça d'une autre manière. Oui, c'est ça le problème. Et regardez ici hein, l'image de Jésus en Moïse. Il est fidèle. Hein? Moïse était fidèle dans le service et dans la maison de l'Éternel comme le Seigneur Jésus-Christ est fidèle. Et c'est à Christ que Dieu parle bouche à bouche. Sans énigme. Il n'y a pas d'énigme. Il le voit face à face. Il lui parle bouche à bouche et, voyez, il voit Dieu face à face. Notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Vous voyez comment Moïse était l'image de notre Seigneur et Sauveur, Jésus. Et vous pouvez encore lire dans Nombre 4, Nombre 16, Corée, Abiram et Abiou. On ne va pas le lire maintenant. Corée, Abiram et Abiou. Eux aussi vont se lever contre l'autorité de Moïse. Mais Dieu va les frapper. Dieu va fendre la terre et 23 000 vont mourir le même jour. Parce qu'ils se sont levés contre l'autorité de son serviteur. Vous voyez, mes amis, c'est ce que nous voyons ici. Mais ces hommes ne savaient même pas que, en réalité, prendre la place de Paul, c'est appeler à souffrir comme Paul. Et prendre la place de Paul avec de mauvaises intentions, c'est attirer sur soi la juste et éternelle colère de Dieu, le juste jugement de Dieu. Ils ne savaient pas. Que cela soit un enseignement pour nous. Un enseignement pour nous. Et ces frères qui contestaient le ministère de Paul le faisaient non pour... Enfin, ils le faisaient dans un but. Et pour le torturer dans son esprit et le faire souffrir davantage dans la prison. Malheureusement, cela ne faisait que faire la joie de Paul. Parce que ces hommes, quoi qu'ils prêchaient avec de mauvaises intentions, Paul dit bien, ils annonçaient Christ. Ils annonçaient Christ et nous allons le voir. Voyez, mes amis, il y a et il y aura toujours des frères de cette catégorie, n'est-ce pas, qui contestent toujours dans la maison de Dieu. Ils contestent. Hein. Ils ne se contentent pas de ce que Dieu leur a donné et de ce que Dieu leur donne, mais ils sont jaloux du succès, ils sont jaloux des dons des autres, hein, et ils veulent être à leur place. Il y en a toujours et il y en aura toujours, c'est malheureux. Mais c'est la chair, c'est la chair. C'est ça, c'est les agissements, la manifestation de la chair en nous. Et que le Seigneur vraiment nous préserve. Que le Seigneur nous préserve. Afin que, quelles que soient les influences de la chair, que nous puissions triompher, n'est-ce pas, de ces influences. Et que nous lui restions fidèles. Et, voyez, ne sachant pas que, écoutez-le bien, parce que le plus souvent, on peut dire non, je veux être à la place de pasteur Jean, je veux prêcher comme pasteur Jean. Moi, je peux dire non, je veux être à la place de l'autre, vraiment, je veux être comme lui. Mais sachez-le bien, nous ne pourrons jamais mieux servir le Seigneur qu'à la place où il nous a mise. Vous comprenez ça? C'est uniquement là où il nous a placés et avec le don qu'il nous a donné et avec la grâce qu'il nous donne chaque jour que nous pouvons le servir de manière agréable. En dehors de cela, nous ne pouvons pas. voyez, chacun est appelé à une fonction, à un rôle, à un rôle. Et, voyez, le Saint-Esprit nous apprend ici deux choses dans l'attitude. Premièrement, l'attitude de Paul, voyez, face à ses frères-là. Nous voyons que l'apôtre Paul ne s'est même pas mis en colère contre eux. Et il ne demande pas au Seigneur, n'est-ce pas, de les juger. Il ne demande pas au Seigneur de les frapper, quoique cela lui causait, quoique cela était pour lui une source de peine et de chagrin. De chagrin. Au contraire, l'apôtre Paul avait pitié de ses frères, ignorants, et il priait pour eux. Vous et moi, voici notre attitude. Quand nous sommes enviés, quand nous sommes jalousés, quand les hommes veulent prendre notre place, ou bien quand les frères dans l'ignorance ne comprennent pas et qu'ils se lèvent contre nous, qu'est-ce que nous devons faire? Aller en guerre contre eux? Non, mais jeter sur eux un regard de pitié et prier pour eux. Une deuxième chose que nous voyons, n'est-ce pas, que cela nous apprend, c'est la souveraineté de Dieu qui dirige toutes choses pour sa gloire. Voyez, quoique ses frères se sont mis à prêcher par jalousie envers Paul et avec des intentions malveillantes, mais le Seigneur les a ordonnés à ne prêcher que Christ et Christ crucifié. Amen. C'est ça. C'est ça. Le Seigneur les a ordonnés à ne prêcher que Christ et Christ crucifié. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans le verset 16 et 18, non 17 et 18, il dit, « Tandis que ceux-là animés d'un esprit de dispute annoncent Christ dans les intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelque affliction dans mes liens. » Et il dit, verset 18, « Que même, qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit de manière sincère, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. » Encore. Pourquoi? Parce que Paul voyait comment Dieu utilisait souverainement ses hommes. Oui, ils se sont levés contre Paul dans leur haine, dans leur jalousie, mais Dieu les a ordonnés. Dieu s'est saisi de leur cœur afin que c'est le Seigneur Jésus-Christ qu'il prêche. Lui et lui seul. Amen. N'est-ce pas ce que Proverbe 16 nous enseigne? Lisons-le rapidement. Proverbe 16, verset 1 et verset 9. Il dit, les projets que forme l'homme dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Et le verset 9, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Amen. Voyez, ces hommes, ils se sont levés avec de mauvaises intentions, mais le Seigneur les a saisis afin qu'ils ne puissent proclamer que Christ est Christ crucifié. Et cela nous ramène à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ lui-même. Lorsque les Juifs haïssaient, lorsque les Juifs disaient à Pilate, crucifie-le, crucifie-le, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Lorsqu'ils l'ont crucifié, l'ont fait mourir par envie et par jalousie, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'accomplir la volonté de Dieu. Oui, la souveraineté de Dieu, qui dirige toutes choses pour sa gloire. Pour sa gloire. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre leur dit, « Cet homme que vous avez livré selon le dessein arrêté de Dieu. » Il dit, « Selon ce que Dieu avait annoncé d'avance. Vous l'avez fait mourir, mais Dieu l'a ressuscité. » C'est mort, parce qu'il n'était pas possible à la mort de le retenir. De le retenir. De le retenir. Vous voyez, mes amis, c'est ça des leçons que nous apprenons que le Saint-Esprit nous apprend là. Et, tandis que, la deuxième catégorie de frères, tandis que certains prêchaient l'évangile par envie
envers Paul et l'annonçait avec des motifs impurs, n'est-ce pas? Nous voyons encore certains qui annonçaient l'évangile avec des dispositions bienveillantes et par amour pour Christ et par amour pour Paul, le serviteur de Christ. Amen. Qu'est-ce que nous apprenons là? Sans beaucoup de commentaires, écoutez, le cher frère, tout ce que le Seigneur nous donne de faire, ou tout ce que nous faisons au nom du Seigneur, tout ce que nous faisons pour les frères, doit être fait par amour pour Christ et par amour pour les frères. L'amour doit être le motif de toute action que nous posons devant Dieu. L'amour pour Christ doit être le motif de toute action que nous posons devant Dieu. Et l'apôtre Paul est clair là-dessus. Dans 1 Corinthiens 16, 22 et dans Éphésiens 6, 24, il insiste que celui qui n'aime pas le Seigneur soit anathème. Ça veut dire maudit. Et il dit, celui qui n'aime pas le Seigneur d'un amour inaltérable, un amour qui ne change pas. Et ce n'est qu'évident en réalité. Voyez, si le Seigneur nous a aimés, le premier, et qu'il est mort sur la croix pour nos péchés, si le Saint-Esprit a répandu l'amour de Jésus-Christ dans nos cœurs, nous ne pouvons que aimer le Seigneur en retour comme il nous a aimés. Aimer. Aimer. Ses frères aimaient le Seigneur, Jésus-Christ. Et ils avaient souci de la gloire de son nom. Ils avaient souci du salut de ses élus. L'avancement de sa gloire et le salut de ses élus les préoccupaient. C'est ce qui préoccupait leur cœur. Et ils aimaient Paul lui-même. Ce serviteur de Dieu par qui Christ les a sauvés. Ce serviteur de Dieu dont il bénissait le ministère. Il reconnaissait que son ministère lui a été donné par Dieu. Il n'était pas en train d'usurper ce ministère. C'est Dieu qui le lui a donné. Nous revenons dans notre texte, voyez, où il dit, verset 16, il dit, « Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, sachant que c'est Dieu qui m'a établi pour la défense de l'Évangile. » Et quel était donc leur désir? Leur désir était que, leur désir et leur souci était que le ministère de Paul continue. Vous voyez, la continuité du ministère de Paul. Ils voulaient que le ministère de Paul demeure. Et certainement, non seulement il prêchait l'évangile, mais il priait pour la relève. La relève et la continuité. Mes amis, combien nous devons aimer les serviteurs de Dieu? C'est un seul homme par lequel le Seigneur Jésus-Christ nous a bénis en nous sauvant de nos péchés. Et combien nous devons prier pour que non seulement le Seigneur les soutienne, mais que même s'ils sont absents, que leur ministère demeure, que Dieu suscite des hommes pour la relève, des hommes fidèles pour la relève. Voyez, il y a des hommes que je connais, particulièrement un que je connais, je ne vous dirai pas le nom. C'est par lui que le Seigneur m'a amené à lui. Et la place de cet homme dans mon cœur est si grande. Je bénis Dieu chaque jour pour cet homme et pour ce ministère béni que Dieu lui a donné. D'annoncer l'évangile, d'annoncer son Fils crucifié. Et je prie que le ministère de cet homme demeure. Et que même si demain il plaisait au Père de le rappeler, que le Père suscite une relève. Nous devons prier, devons aimer ces hommes et prier pour eux. Voyez,
Je pensais que je pouvais aller jusqu'au verset 21 comme nous l'avons lu, mais je pense que je vais m'arrêter là et que nous continuerons prochainement, Dieu voulant. Amen.